Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc dans les Lectures en liberté pour la suite du roman de Georges Siménon, Le chien jaune. Le cerne des paupières du docteur Michou rongeait la moitié des joues non rasées, qui semblaient plus creuses. Et l'absence de cravate, comme le complet fripé, accroissait l'impression de détresse qui se dégageait du personnage. Il s'interrompait de parler pour tout sauter. Il cracha même ostensiblement dans son mouchoir qu'il regarda en homme qui craint la tuberculose et qui s'observe avec anxiété. « Vous avez du nouveau ?» questionna-t-il avec lassitude. « Les gendarmes ont dû vous parler du drame de cette nuit. »«
Non ! Qu'est-ce que... Qui a été ?»
Il s'était collé au mur. Comme s'il eût craint d'être assailli. Bah, un passant qui a reçu une balle dans la jambe.
Et on tient le meurtrier. Mais je n'en peux plus, commissaire. Avouez qu'il y a de quoi devenir fou. Encore un client du café de l'amiral, n'est-ce pas? Mais c'est nous qu'on vise. Et je me creuse en vain la tête pour deviner pourquoi. Oui, pourquoi Mostaguen, Le Pommeray, Goyard... et le poison qui nous était destiné à tous.
Vous verrez qu'ils finiront par m'atteindre, malgré tout, ici même.
Mais pourquoi ? Mais pourquoi, dites ?
Il n'était plus pâle, il était livide. Et il faisait mal à voir tant il illustrait l'idée de panique dans ce qu'elle a de plus pitoyable. De plus affreux.
Je n'ose pas dormir. Cette fenêtre, tenez, il y a des barreaux, mais il est possible de tirer à travers, la nuit. Un gendarme, ça peut s'endormir ou penser à autre chose. Je ne suis pas né pour une vie pareille, moi.
Hier, j'ai bu toute cette bouteille avec l'espoir de dormir et je n'ai pas fermé l'œil. J'ai été malade. Mais si seulement on était parvenu à abattre ce vagabond avec son chien jaune.
Et est-ce qu'on l'a revu, le chien? Est-ce qu'il rôde toujours autour du café? Je ne comprends pas qu'on ne lui ait pas envoyé une balle dans la peau, à lui et à son maître.
Son maître a quitté Concarneau cette nuit.
Ah!
Le docteur semblait avoir peine à y croire.
Tout de suite après son nouveau crime.
Avant.
Mais alors ? Mais ce n'est pas possible. Il faut croire que...
C'est cela. Je le disais au maire cette nuit, un drôle de bonhomme entre nous, le maire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Moi, je ne sais pas, je...
Enfin, il vous a vendu les terrains du lotissement. Vous êtes en rapport avec lui. Vous étiez ce qu'on appelle des amis.
Oh, nous avions surtout des relations d'affaires et de bon voisinage à la campagne.
Maigret nota que la voix se raffermissait, qu'il y avait moins de flou dans le regard du docteur.
Qu'est-ce que vous lui disiez ?
Maigret tira son carnet de sa poche. Je lui disais que la série de crimes, ou si vous préférez, les tentatives de meurtre, n'avait pu être commise par aucune des personnes actuellement connues de nous. Je ne vais pas reprendre les drames un par un. Je résume. Je parle objectivement, n'est-ce pas, en technicien. Eh bien, il est certain que vous n'avez pu matériellement tirer cette nuit sur le douanier, ce qui pourrait suffire à vous mettre hors de cause. Le Pommeraye n'a pas pu tirer non plus puisqu'on l'enterre ce matin. Ni Goyard, qui vient d'être retrouvé à Paris. Et il ne pouvait ni l'un ni l'autre se trouver le vendredi soir derrière la boîte aux lettres de la maison vide. Emma non plus.
Mais le vagabond au chien jaune!
J'y ai pensé. Non seulement ce n'est pas lui qui a empoisonné le Pommeraye, mais cette nuit il était loin des lieux du drame quand celui-ci s'est produit. C'est pourquoi j'ai parlé au maire d'une personne inconnue, un X mystérieux qui, lui, pourrait avoir commis tous ces crimes. À moins qu'il ne s'agisse pas d'une série. Au lieu d'une sorte d'offensive unilatérale, supposez un vrai combat entre deux groupes ou entre deux individus.
Mais alors, commissaire, mais qu'est-ce que je deviens, moi ? S'il y a des ennemis inconnus qui rôdent, je...
Et son visage se ternissait à nouveau.
Il se prit la tête à deux mains. Quand je pense que je suis malade, que les médecins me recommandent le calme le plus absolu. Oh ! Il n'y aura pas besoin d'une balle ni de poison pour m'avoir. Vous verrez que mon rein fera le nécessaire.
Qu'est-ce que vous pensez du maire ?
Je ne sais pas. Je ne sais rien. Il est d'une famille très riche. Jeune homme, il a mené la grande vie à Paris. Il a eu son écurie de course, puis il s'est rangé, il a sauvé une partie de sa fortune et il est venu s'installer ici dans la maison de son grand-père, qui était lui aussi maire de Concarneau. Il m'a vendu les terres qui ne lui servaient pas. Je crois qu'il voudrait être nommé conseiller général pour finir au Sénat.
Le docteur s'était levé et on eût juré qu'en quelques jours il avait maigri de 10 kilos. Il se fut mis à pleurer d'énervement qu'on ne s'en serait pas étonné.
Qu'est-ce que vous voulez y comprendre ? Et ce Goyard qui est à Paris quand on croit, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire là et pourquoi ?
Nous ne tarderons pas à le savoir car il va arriver à Concarneau. Il est même arrivé à l'heure qu'il est.
On l'a arrêté ?
On l'a prié de suivre deux messieurs jusqu'ici. Ce n'est pas la même chose.
Et qu'est-ce qu'il a dit ?
Rien. Il est vrai qu'on ne lui a rien demandé. Alors soudain, le docteur regarda le commissaire en face. Le sang lui monta d'un seul coup aux pommettes.
Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Moi, j'ai l'impression que quelqu'un devient fou. Vous venez me parler du maire, de Goyard, et je sens, vous entendez, je sens que d'un moment à l'autre, c'est moi qui serai tué.
Malgré ces barreaux qui n'empêcheront rien, malgré ce gros imbécile de gendarme qui est de garde dans la cour, et
je ne veux pas mourir, je ne veux pas qu'on me donne seulement un revolver pour me défendre, ou alors qu'on enferme ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui ont tué le Pommeraye, qui ont empoisonné la bouteille.
Il pantelait des pieds à la tête. Je ne suis pas un héros, moi. Mon métier, c'est pas de braver la mort.
Je suis un homme, je suis un malade, et j'ai bien assez pour vivre de lutter contre la maladie.
Vous parlez,
mais qu'est-ce que vous faites ?
Rageur, il se frappa le front contre le mur. Tout ceci ressemble à une conspiration, à moins qu'on veuille me rendre fou. Oui, on veut m'interner, qui sait ? N'est-ce pas ma mère qui en a assez ? Parce que j'ai toujours gardé jalousement la part qui me revient dans l'héritage de mon père. Mais je ne me laisserai pas faire.
Maigret n'avait pas bougé. Il était toujours là, au milieu de la cellule blanche, dont un mur était inondé de soleil, les coudes sur le dossier de sa chaise, la pipe aux dents. Le docteur allait et venait, en proie à une agitation qui confinait au délire.
Or, soudain, on entendit dans la pièce une voix joyeuse, à peine ironique, qui modulait à la façon des enfants. « Coucou !»
Ernest Michou sursauta, regarda les quatre coins de la cellule avant de fixer Maigret. Et alors il aperçut le visage du commissaire, qui avait tiré sa pipe de sa bouche et qui rigolait en lui lançant une œillade. Ce fut comme l'effet d'un déclic. Michou s'immobilisa, tout mou, tout falot, eut l'air de fondre jusqu'à en devenir une silhouette irréelle d'inconsistance.
« C'est vous qui ?
On eût pu croire que la voix venait d'ailleurs, comme celle d'un ventriloque qui fait jaillir les mots du plafond ou d'un vase de porcelaine. Les yeux de Maigret riaient toujours, tandis qu'il se levait et prononçait avec une gravité encourageante qui contrastait avec l'expression de sa physionomie. « Me remettez-vous, docteur ?»« J'entendais pas dans la cour. Dans quelques instants, l'assassin sera certainement entre ces quatre murs. » Ce fut le maire que le gendarme introduisit le premier. Mais il y avait d'autres bruits de pas dans la cour. « Vous m'avez prié de venir, commissaire ?» Maigret n'avait pas eu le temps de répondre qu'on voyait entrer dans la cour deux inspecteurs qui encadraient Jean Goyard, tandis qu'on devinait dans la rue, des deux côtés de la poterne, une foule agitée. Le journaliste paraissait plus petit, plus grassouillet, entre ses gardes du corps. Il avait rabattu son chapeau mou sur ses yeux et, par crainte des photographes, sans doute, il tenait un mouchoir devant le bas de son visage. « Par ici !» dit Maigret. « Vous pourriez peut-être aller nous chercher des chaises, car j'entends une voix féminine. » Une voix aiguë qui disait « Où est-il? Je veux le voir immédiatement et je vous ferai casser, inspecteur. Vous entendez? Je vous ferai casser !» C'était Madame Michou, en robe mauve, avec tous ses bijoux, de la poudre et du rouge, qui haletait d'indignation. « Ah, vous êtes ici, cher ami, minauda-t-elle devant le maire. Imagine-t-on une histoire pareille? Ce petit monsieur arrive chez moi alors que je ne suis même pas habillée. Ma domestique est en congé. Je lui dis à travers la porte que je ne puis pas le recevoir et il insiste, il exige, il attend pendant que je fais ma toilette en prétendant qu'il a ordre de m'amener ici. Mais c'est tout bonnement inouï. Quand je pense que mon mari était député, qu'il a presque été président du conseil et que ce galapia, oui, ce galapia. » Elle était trop indignée pour se rendre compte de la situation. Mais soudain, elle vit Goyard, qui détournait la tête, son fils, assis au bord de la couchette, la tête entre les mains. Une auto entrait dans la cour ensoleillée, des uniformes de gendarmes chatoyaient, et de la foule, maintenant, partait une clameur. On dut fermer la porte cochère pour empêcher le public de pénétrer de force dans la cour, car la première personne que l'on tira littéralement de l'auto n'était autre que le vagabond. Non seulement il avait des menottes aux mains, mais encore on lui avait entravé les chevilles à l'aide d'une corde solide, si bien qu'il fallut le transporter comme un colis. Derrière lui, Emma descendait, libre de ses mouvements, aussi ahurie que dans un rêve. « Libérez-lui les jambes !» Les gendarmes étaient fiers, encore émus de leur capture. Celle-ci n'avait pas dû être facile, à en juger par les uniformes en désordre et surtout par le visage du prisonnier, qui était complètement maculé de sang qui coulait encore de sa lèvre fendue. Madame Michou poussa un cri d'effroi, recula jusqu'au mur, comme à la vue d'une chose répugnante, tandis que l'homme se laissait délivrer sans mot dire, que sa tête se levait et qu'il regardait lentement, lentement autour de lui. « Tranquille, hein, Léon ?» gronda Maigret. L'autre tressaillit, chercha à savoir qui avait parlé.
Cinnamon, where will you run to? Cinnamon, where will you run to? Cinnamon, where will you run to? All on that day, run to the mountain won't hide you. Run to the sea will not have you. Run to your grave will not hold you. All on that day. Mm-hmm.
she, cinnamon, mountains are falling. Cinnamon, the sea, it rages, and cinnamon, the grave will not hold you. All on that day, run to the Lord, Lord, please hide me. Run to the Lord. Cinnamon, cinnamon, where you gonna run to? All on that day, run to the mountain won't hide you, and run to the sea will not hold you, and run to your grave, the grave will not hide you. All on that day, cinnamon, the mountain is falling, and cinnamon, the sea, it rages, and cinnamon.
Denis Flagel.
Après cette nouvelle pause musicale, nous revenons au roman de Georges Simenon, Le Chien Jaune. Qu'on lui donne une chaise et un mouchoir. Il remarqua que Goyard s'était glissé tout au fond de la cellule, derrière Madame Michou, et que le docteur grelottait sans regarder personne. Le lieutenant de gendarmerie, embarrassé par cette réunion insolite, se demandait quel rôle il avait à jouer. « Qu'on ferme la porte. Que chacun veuille prendre la peine de s'asseoir. Votre brigadier est capable de nous servir de greffier, lieutenant. Très bien. Qu'il s'installe à cette petite table. Je vous demande de vous asseoir aussi, monsieur le maire. » La foule dehors ne criait plus. Et pourtant, on la sentait là, on devinait dans la rue une vie compacte, une attente passionnée. Maigret bourra sa pipe en marchant de long en large, se tourna vers l'inspecteur Leroy. « Vous deviez téléphoner avant tout au syndic des gens de mer à Quimper pour lui demander ce qui est arrivé, voilà 4 ou 5 ans peut-être, à un bateau appelé la Belle Emma. » Comme l'inspecteur se dirigeait vers la porte, le maire toussa, fit signe qu'il voulait parler. Ben, « Je puis vous l'apprendre, commissaire, c'est une histoire que tout le monde connaît dans le pays. Parlez. » Le vagabond remua dans son coin la façon d'un chien hargneux. Emma ne le quittait pas des yeux, se tenait assise sur l'extrême bord de sa chaise. Le hasard l'avait placée à côté de Madame Michou, dont le parfum commençait à envahir l'atmosphère, une odeur sucrée de violette. « Je n'ai pas vu le bateau, disait le maire avec aisance, mais peut-être un rien de pose. Il appartenait à un certain Le Glen ou Le Glérec, qui passait pour un excellent marin, mais pour une tête chaude. Comme tous les caboteurs du pays, la Belle Emma transportait surtout des primeurs en Angleterre. Un beau jour, on a parlé d'une plus longue campagne. » Pendant 2 mois, on n'a pas eu de nouvelles, et puis enfin, on a appris que la Belle Emma avait été arraisonnée en arrivant dans un petit port près de New York. L'équipage conduit en prison et la cargaison de cocaïne saisie. Le bateau aussi, bien entendu. C'était l'époque où la plupart des bateaux de commerce, surtout ceux qui transportaient le sel à Terre-Neuve, se livraient à la contrebande de l'alcool. Je vous remercie. Bougez pas, Léon. Répondez-moi de votre place et surtout répondez exactement à mes questions sans plus. Vous entendez ? D'abord, où vous a-t-on arrêté tout à l'heure ? Le vagabond essuya le sang qui maculait son menton, prononça d'une voix rauque : À Rospordin, dans un entrepôt du chemin de fer où nous attendions la nuit pour nous glisser dans n'importe quel train. Maigret regarda Emma qui avait des larmes fluides sur les joues, puis la brute repliée sur elle-même. Il sentit que le docteur, bien qu'immobile, était en proie à une agitation intense, et il fit signe à un des policiers d'aller se placer près de lui pour parer à toute éventualité. Le brigadier écrivait. La plume grattait le papier avec un bruit métallique. Racontez-nous exactement dans quelles conditions s'est fait ce chargement de cocaïne, le Glérec. L'homme leva les yeux. Son regard braqué sur le docteur se durcit, et la bouche hargneuse, ses gros poings serrés, il grommela. La banque m'avait prêté de l'argent pour faire construire mon bateau. Je sais. Ensuite, il y a eu une mauvaise année. Le franc remontait, l'Angleterre achetait moins de fruits, je me demandais comment j'allais payer les intérêts. J'attendais pour me marier avec Emma d'avoir remboursé le plus gros. C'est alors qu'un journaliste que je connaissais, parce qu'il était souvent à fureter dans le port, est venu me trouver. À la stupéfaction générale, Ernest Michoud découvrit son visage, qui était pâle, mais infiniment plus calme qu'on ne le supposait. Et il tira un carnet, un crayon de sa poche, écrivit quelques mots. C'est Jean Servière qui vous a proposé un chargement de cocaïne. Pas tout de suite. Il m'a parlé d'une affaire, il m'a donné rendez-vous dans un café de Brest où il se trouvait avec deux autres. Le docteur Michoud et monsieur Le Pommeret. C'est cela. Michoud prenait des nouvelles notes et son visage avait une expression dédaigneuse. Il alla même à un certain moment jusqu'à esquisser un sourire ironique. Lequel des trois vous a mis le marché en main ? Aucun des trois. Ou plutôt, ils ne m'ont parlé que de la grosse somme à gagner en un mois ou deux. Un Américain est arrivé, une heure après, je n'ai jamais su son nom. Je ne l'ai vu que deux fois. Sûrement un homme qui connaît la mer, car il m'a demandé des caractéristiques de mon bateau. Le nombre d'hommes qu'il me faudrait à bord et le temps nécessaire à poser un moteur auxiliaire. Je croyais qu'il s'agissait de contrebande d'alcool, moi, tout le monde en faisait, même des officiers de paquebot. La semaine suivante, on installait un moteur demi-diesel sur la Belle Emma. On m'a remis une carte anglaise, donnant tous les vents de l'Atlantique et la route des voiliers, car moi je n'avais jamais fait la traversée. Je n'ai pris que deux hommes avec moi par prudence et je n'ai parlé de l'affaire à personne, sauf à Emma, qui était sur la jetée la nuit du départ. Les trois hommes étaient là aussi, près d'une auto qui avait éteint ses feux. Le chargement avait eu lieu dans l'après-midi et à ce moment, moi j'ai eu le tract. Pas tant à cause de la contrebande, je me suis guère allé à l'école, tant que je peux me servir du compas et de la sonde, ça va, je ne crains personne. Mais là-bas, au large... Le vieux capitaine avait essayé de m'apprendre à manier le sextant pour faire le point. J'avais acheté une table de logarithme et tout ce qu'il faut, mais j'étais sûr de m'embrouiller dans les calculs. Seulement, si je réussissais, le bateau était payé. Et il me restait quelque chose comme 20 000 francs en poche. Il vantait furieusement cette nuit-là. On a perdu de vue l'auto et les trois hommes, puis Emma, dont la silhouette se découpait en noir au bout de la jetée. 2 mois en mer. Michoud prenait des notes, mais évitait de regarder l'homme qui parlait. J'avais des instructions pour le débarquement. On arrive, enfin Dieu sait comment, dans le petit port désigné. On n'a pas encore lancé les amarres à terre que 3 vedettes de la police avec des mitrailleuses et des hommes armés de fusils nous entourent, sautent sur le pont, nous mettent en joue en nous criant quelque chose en anglais et nous donnent des coups de crosse jusqu'à ce que nous mettions haut les mains. On était malades. Personne ne parlait le français. 1 heure plus tard, nous étions chacun enfermés dans une cage de fer à la prison de Sing Sing.
On en était malade. Personne ne parlait le français. Des prisonniers nous lançaient des plaisanteries et des injures. Et puis on m'a annoncé que j'étais condamné à 2 ans de travaux forcés et à 100 000 $ d'amende, que mon bateau était confisqué et tout, je ne comprenais pas. 100 000 $ ! Je jurais que je n'avais pas d'argent. Dans ce cas, c'était je ne sais combien d'années de prison en plus. Je suis resté à Sing Sing. On m'a tondu. On m'a emmené sur la route pour casser des pierres. Un chapelain a même voulu m'enseigner la Bible. Vous ne pouvez pas savoir. Il y avait des prisonniers riches qui allaient se promener en ville presque tous les soirs, et les autres le servaient de domestique. Peu importe. Ce n'est qu'après 1 an que j'ai rencontré un jour l'Américain de Brest qui venait visiter un détenu. Je l'ai reconnu, je l'ai appelé. Il a mis quelque temps à se souvenir, puis il a éclaté de rire et il m'a fait conduire au parloir. Il était très cordial. Il me traitait en vieux camarade. Il m'a dit qu'il avait toujours été agent de la Prohibition. Il travaillait surtout à l'étranger, en Angleterre, en France, en Allemagne, d'où il envoyait à la police américaine des renseignements sur les convois en partance. Mais en même temps, il lui arrivait de trafiquer pour son compte, c'était le cas, sur cette affaire de cocaïne qui devait rapporter des millions, car il y en avait 10 tonnes à bord, et à je ne sais combien de francs le gramme. Il s'était donc abouché avec des Français qui devaient fournir le bateau et une partie des fonds. C'était mes 3 hommes et naturellement les bénéfices étaient à partager entre eux 4. Mais attendez, car c'est le plus beau qu'il me reste à dire. Le jour même où l'on procédait au chargement à Quimper, l'Américain reçoit un avis de son pays. Il y a un nouveau chef de la Prohibition, la surveillance est renforcée, les acheteurs des États-Unis hésitent et de ce fait la marchandise risque de ne pas trouver preneur. Par contre, un nouvel arrêté promet à tout homme qui fera saisir de la marchandise prohibée une prime s'élevant au tiers de la valeur de cette marchandise. Et c'est dans ma prison qu'on me raconte tout ça. J'apprends que, tandis que je larguais mes amarres, anxieux, et que je me demandais si nous arriverions vivants sur l'autre bord de l'Atlantique, mes 3 hommes discutaient avec l'Américain sur le quai même. Risquer le tout pour le tout. C'est le docteur, je le sais, qui a insisté en faveur de la dénonciation. Du moins, de la sorte, était-ce un tiers du capital récupéré à coup sûr, sans risque de complications. Sans compter que l'Américain s'arrangeait avec un collègue pour mettre à gauche une partie de la cocaïne saisie, des combines incroyables, je le sais. La belle Emma glissait sur l'eau du port. Je regardais une dernière fois ma fiancée, sûre de venir l'épouser quelques mois plus tard. Et ils savaient, eux qui nous regardaient partir, que nous serions cueillis à notre arrivée. Ils comptaient même que nous nous défendrions, que nous serions sans doute tués dans la lutte, comme cela arrivait tous les jours à cette époque dans les eaux américaines. Ils savaient que mon bateau serait confisqué, qu'il n'était pas entièrement payé, que je n'avais rien d'autre au monde. Ils savaient que je ne rêvais que de me marier, et ils nous regardaient partir. C'est cela qu'on m'avouait à Sing Sing, où j'étais devenu une brute parmi d'autres brutes. On me donnait des preuves. Mon interlocuteur riait, s'écriait en se tapant les cuisses, « De jolies canailles, ces 3-là !» Nous avons terminé pour ce soir la lecture du roman de Georges Simenon, « Le chien jaune ». Et je vous donne rendez-vous demain pour la fin de cette histoire. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.